On est sur, dans une série sur le cadeau d'une éducation chrétienne. Ça, c'est ce que vous pouvez offrir non seulement pendant ce mois de Noël, mais tous les jours de l'année, un cadeau d'une éducation chrétienne pour les enfants. Peut-être vous lui dites, oh là là, c'est un message pour les parents, je suis un enfant ou j'ai pas d'enfant, je suis pas marié, qu'est-ce que je vais faire pendant les prochaines minutes? Non, c'est aussi pour vous. Vous savez, certainement vous le saurez un jour, parents. Vous pouvez accompagner d'autres à être de bons parents ou rappeler des vérités essentielles de la vie chrétienne. Alors je vous prie quand même d'être attentif à ce verset de Éphésiens chapitre 6. Et on va regarder le verset 4. On a déjà prêché sur ce verset la semaine dernière, je crois. Et il y a 15 jours, et on voudrait encore réfléchir un peu plus précisément sur cet aspect de la correction. Je lis Éphésiens 6, verset 4. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » En les corrigeant. C'est le même mot qu'on trouve dans Hébreux chapitre 12, et qui était traduit et qui nous a été lu par châtiment ou châtier. Mais il dit ici, selon le Seigneur. Et là, ça ouvre une vaste pensée. Le mot grec, c'est châtier, punir, redresser le caractère par des réprimandes. Et c'est clairement pas cet aspect de la parentalité que je préfère. Mais elle fait partie de notre responsabilité. C'est pas non plus la plus simple. Elle réclame beaucoup d'amour, elle réclame beaucoup de calme, de sagesse, de justice, de constance, c'est-à-dire tout ce qui nous manque la plupart du temps au moment où nous devons corriger. Et donc c'est cela toute notre grande difficulté. Le monde confond la correction avec la maltraitance, justement parce que les parents ne trouvent pas dans leur propre cœur les qualités requises pour exercer la correction selon le Seigneur. C'est-à-dire avec amour, comme nous enseigne la parole de Dieu. Paul dit aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 11 et 12, il dit « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour son enfant, pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant et puis vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Et c'est véritablement ce que nous sommes tenus de faire, porter nos enfants, les conjurer à marcher d'une manière digne de Dieu. Vous savez, on se souvient, peut-être quand vous réfléchissez à la correction, vous faites rembobiner là, et vous rappelez peut-être de certaines corrections. J'ai essayé de faire l'exercice. Les corrections dont je me souviens étaient injustes, disproportionnées, humiliantes, pour de mauvaises raisons ou de mauvaises manières. Heureusement, je m'en souviens pas de beaucoup, des comme ça. Mais on se souvient généralement pas des corrections appropriées qui ont été données pour notre bien. C'est pourquoi j'aimerais commencer ce moment en réfléchissant à cela et en demandant le secours du Seigneur pour que nous, parents, nous apprenions à corriger nos enfants selon le Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, c'est une grande tâche que tu nous as confiée, à nous des pécheurs, d'éduquer nos enfants, de les corriger selon toi, de les instruire pour toi. Et Seigneur, on a besoin de toute ta grâce, on a besoin de toute ta patience, on a besoin de ton conseil, on a besoin du renouvellement de l'intelligence et de nos pensées pour comprendre comment le faire selon toi. Viens à notre aide alors qu'on cherche à réfléchir et à méditer ce que tu nous enseignes dans ta parole. On prie pour que tu nous aides à traduire cela dans tous les domaines de notre vie, et dans l'éducation de nos enfants, dans la réflexion que l'on veut mener sur l'éducation des enfants, pour que tu nous viennes en aide, Seigneur, et que l'on puisse les élever pour toi, pour ta gloire, par Jésus-Christ. Amen. Je vous propose de regarder tout d'abord corriger ce qui doit l'être. Ça semble une évidence, mais peut-être ça ne l'est pas complètement. Corriger ce qui doit l'être, c'est-à-dire corriger le cœur plus que le comportement. On corrige parfois une maladresse ou un oubli. C'est vrai que maladresse et oubli peuvent avoir de lourdes conséquences parfois, mais c'est le péché que l'on doit corriger. Peut-être un conseil ou une recommandation est plus approprié pour éviter les oublis et les maladresses. Mais par-dessus tout, on a tendance à, en tant que parents, à vouloir corriger le comportement de nos enfants davantage que leur cœur. Par exemple, un enfant vient voir ses parents et rapporte que son frère a volé à l'école. Ah bon, pas bon. On se dit, mais peut-être il fait ça par amour pour son frère. Peut-être. Mais peut-être pas. Et peut-être qu'on devrait réfléchir à ce qui motive ce frère, cet enfant, à rapporter cela à ses parents. Et peut-être à examiner si c'est pas une manière de passer pour plus gentil qu'il n'est, l'enfant sage, ou bien pour camoufler ses propres fautes, ou simplement pour passer pour meilleur. Et là, on voit de l'orgueil, ou peut-être qu'il fait ça avec condescendance pour son frère. Qu'est-ce que l'on corrige ? Il a dit la vérité. Mais on voit bien que son cœur n'est pas droit ou que ses intentions ne sont pas bonnes. On aurait tendance à vouloir corriger le mauvais comportement, le vol en l'occurrence, du frère. Comportement qui nous hérisse les poils. Mais qu'est-ce que l'on corrige ? Est-ce que l'on corrige le cœur du rapporteur ? Est-ce que l'on corrige simplement le fait d'avoir volé ? Ou est-ce que l'on s'intéresse au cœur du voleur ? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa compréhension de Dieu ? Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins, qui nous donne toutes choses par sa grâce. De ce fait, si je convoite et vole, c'est que mon cœur ne se satisfait pas en Dieu, ne se satisfait pas de Dieu, ne reconnaît pas qu'il est le plus précieux bien. Le péché n'est pas simplement mentir, voler ou tricher, mais le péché, c'est en fait ne pas vouloir de Dieu, d'être son propre Dieu ou de faire quelque chose de plus précieux ou de plus désirable que Dieu lui-même. Et ça, le cœur, ça n'est pas facile à corriger. Si on s'intéresse seulement au comportement, on risque de faire de nos enfants des adultes gentils, mais qui n'ont pas besoin de Dieu. Des pharisiens qui, une fois qu'ils ont quitté la maison, savent se comporter en société, mais qui n'ont aucune relation avec Jésus-Christ, qui n'ont absolument pas besoin de lui et qui sont en route pour la perdition. Vos enfants sont certainement naïfs, crédules, vulnérables, influençables. Et c'est pour cela qu'il faut les protéger. Mais ils ne sont pas innocents. Et c'est pour cela qu'il faut les corriger et les conduire à Christ. Imaginez la situation, votre enfant se comporte mal. Il a piqué une colère. Il a fait un caprice. Il a mal parlé, il a été insupportable. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Et puis là, vous dites, ah ouais, mais oh, je sais, il n'était pas en forme aujourd'hui. Je me demande s'il ne me couvre pas quelque chose. Ou, ah, oh, il n'avait pas fait sa sieste. Ça explique tout. Ou peut-être, il a été entraîné par les enfants de l'école. C'est-à-dire, normalement, il n'est pas comme ça. Mais avec l'école, maintenant, il devient comme ça. Ou peut-être, il est en pleine adolescence. Alors là, c'est les hormones qui s'emballent, il est incontrôlable, quoi. Ou peut-être, il avait faim. Ou il a trop bu de coca. Ou peut-être, il a été diagnostiqué TDAH. Trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Peut-être, il a eu un mauvais exemple chez ses parents. En fait, il a tout ça, en fait. Toutes ces raisons peuvent contribuer au mauvais comportement de votre enfant. Mais elles ne constituent pas le fond du problème. Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Marc 7, 21, 23. C'est du cœur que viennent les mauvaises actions, les mauvaises décisions, les mauvaises paroles. Votre enfant se comporte mal parce que c'est un pécheur. Désolé de vous. Vous blessez comme ça. C'est une vérité. Votre enfant est un pécheur, aussi mignon qu'il soit. Son cœur est pécheur et il est égoïste et c'est pourquoi nous devons viser leur cœur. Alors, je vous invite à réfléchir dans l'éducation de vos enfants, à essayer de considérer les motivations de votre enfant, pas seulement son comportement. On devrait faire les choses bonnes parce qu'elles sont bonnes et non simplement parce qu'on s'en porte mieux ou que l'on en tire des bénéfices. Parce qu'un jour, la chose bonne qu'il vous faudra faire vous occasionnera peut-être une perte. Mais on fait les choses bonnes parce que Dieu est bon. Écoutez également les frustrations de vos enfants. Elles en disent long sur ce qui compte vraiment pour lui, ce que son cœur veut et n'obtient pas, ce qui est peut-être l'idole de son cœur. Là, cette idole, peut-être qu'il faut détruire pour montrer combien Christ est bien meilleur. Mettez en évidence l'importance de l'esprit dans lequel il fait les choses et non pas simplement la chose elle-même. On dit souvent que l'obéissance devrait être immédiate, totale et joyeuse. Si l'obéissance n'est pas immédiate, totale et joyeuse, c'est pas de l'obéissance. Pas selon Dieu. Quand vos enfants sont en colère, ils viennent de se disputer, ils sont en colère, et il y en a un qui tape des pieds, qui crie, et puis l'autre qui part bouder dans sa chambre. On préfère qu'il aille bouder dans sa chambre parce que la réalité, c'est qu'on est tranquille. Mais le problème, son cœur de boudeur ou de colérique, là, c'est la même chose. C'est du péché. Qu'est-ce qu'on va traiter? Est-ce que l'on va traiter simplement celui qui tape des pieds? Ou est-ce qu'on va aller voir aussi cet autre qui boude, qui refuse de parler à son frère depuis? Nous corrigeons le comportement pour obtenir un résultat immédiat. Mais nous devrions corriger le cœur pour obtenir un résultat durable. En corrigeant le comportement, on cherche à obtenir un enfant gentil. En corrigeant le cœur, on cherche à obtenir un enfant chrétien, né de nouveau. Vous savez, on a besoin d'applications pour changer le comportement. Il faut être tout le temps derrière lui. Mais on a besoin de Dieu. On a besoin de la prière et de l'œuvre de la croix pour que son cœur soit transformé. Donc, visons le cœur et supplions Dieu de nous aider à le faire, à viser leur cœur. La deuxième pensée, c'est corriger pour les bonnes raisons. Le plus grand obstacle à l'exercice d'une bonne correction, c'est mon propre cœur égoïste. Voici quelques mauvaises raisons de corriger les enfants. J'aimerais que, en les examinant, vous puissiez peut-être voir ce qu'il conviendrait de faire. Le désir de vivre une vie tranquille. Lorsque le comportement de vos enfants menace votre tranquillité, vous réagissez avec colère parce qu'ils ont cassé une vitre en jouant. Ce qui vous oblige à réparer, ça génère des frais, ça vous oblige à contacter l'assureur, à faire tout un tas de paperasse, juste le week-end où vous vouliez juste être tranquille. Alors là, ça va mal se passer. Vous hurlez. Pourquoi ? Mais parce que c'est votre désir de vivre une vie tranquille qui a été mis à mal. Vous ne corrigez pas le péché. Vous ne corrigez pas, d'ailleurs là, c'est pas un péché. L'envie d'être respecté ou d'être apprécié. On veut avoir des enfants bien élevés, hein, tous. Obéissants. Parce que, quelque part, notre identité est liée à leur comportement. S'ils sont gentils, je suis un bon père. S'ils sont méchants, je suis un mauvais père. Et je veux être respecté comme un bon père. Et je veux être apprécié comme un bon père. Du coup, quand l'un de mes enfants se comporte mal, je suis en colère parce que son comportement menace mon identité, mon acceptation. Et surtout si vous êtes un professionnel de l'éducation, si vous êtes un pasteur qui enseigne sur l'éducation, si vous êtes proviseur, waouh, ou éducateur, ou professeur des écoles, ou policier. J'ai visé la moitié de l'église, là. Vous ne les corrigez pas avec calme et amour pour leur bien, mais avec colère et rage parce qu'ils portent atteinte à votre réputation. Une autre manière, mauvaise raison de corriger ses enfants, c'est la peur d'être placé dans une situation gênante. Imaginez, vous avez emprunté un outil à un ami. Vous l'avez utilisé. Puis après, votre enfant l'a utilisé aussi. Et il l'a perdu ou cassé. Et là, vous dites, oh, yo, yo, yo. Voilà, maintenant, je vais devoir aller expliquer à mon ami que je sais pas ce que j'ai fait. Il m'avait dit que c'était le seul qu'il avait. Il y tenait beaucoup. C'était celui de son père. Qui le tenait de son grand-père. Vous voyez le truc, quoi. Et là, vous êtes gêné. Vous êtes tellement gêné que vous vous en prenez à votre fils, vous le corrigez, vous lui parlez sévèrement, etc. Juste parce qu'il a perdu un truc. C'est terrible. Une autre manière, mauvaise raison de corriger son enfant, l'envie d'agir à sa guise et de tout contrôler. Vous vous apprêtez à partir au sport. Mais votre enfant vous envoie un petit message, vous appelle en vous disant « j'ai raté le bus ». Vous savez qu'il a cette habitude de rater le bus quand il est négligent et sur les horaires. Vous pensiez faire une heure de sport. Vous allez faire une heure d'embouteillage. Mais alors, dans le voyage retour, vous allez lui rabattre les oreilles. Grave. Pourquoi ? Mais parce que vous êtes juste frustré. Vous n'avez pas fait de sport. Encore une mauvaise raison de corriger ses enfants, le désir que ses enfants réussissent. Votre enfant a raté le bac. Il fait partie des 3% qui le ratent. Vous êtes en colère contre lui. Vous êtes en colère contre les profs qui ne savent pas enseigner. Vous êtes en colère contre le système qui est complètement défectueux. Alors vous lui dites des paroles blessantes, humiliantes même. En plus, les enfants de vos collègues, eux, ils ont une mention. Comment vous allez expliquer le truc lundi ? Vous révélez simplement que vous, c'était pour vous qu'il devait réussir. Dans chacune de ces situations, vous n'êtes pas en colère contre le péché lui-même, mais contre votre hyper désir d'être accepté, d'être tranquille. Et cet hyper désir est menacé ou ruiné par leur comportement. Quand on corrige nos enfants parce que leur comportement nous fait honte, on cherche à réparer l'affront qu'ils nous ont fait et non pas la faute qu'ils ont commise. Les enfants sont exaspérés lorsqu'on les corrige pour des motifs égoïstes. Alors, la première des choses, c'est de corriger notre propre cœur. Puis de corriger nos enfants pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, ce serait certainement la gloire de Dieu tout d'abord. Seule la gloire de Dieu peut protéger vos enfants de l'attrait séduisant de leur propre gloire. Naturellement, nos enfants, comme leurs parents, croient à deux mensonges. Le premier est celui de l'autonomie. Ils pensent « je fais ce que je veux ». Je mange ce que je veux, je m'habille comme je veux, je me couche quand je veux. Ce qui provoque certains conflits avec l'autorité parentale. Le deuxième mensonge est celui de l'autosuffisance. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin d'aide. Ça commence lorsque votre petit bout de chou a enfilé ses chaussures à l'envers et qu'il essaye de faire une boucle avec ses lacets. Et vous vous apprêtez pour l'aider et il vous repousse. Pas besoin de toi. Là, c'est à l'envers. Pas besoin de toi. Et alors, ça touche le paroxysme, ça atteint son paroxysme lorsque votre bout de chou est devenu un adolescent. Et là, qui vous explique que vous n'avez rien compris à la vie. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'êtes jamais tombé amoureux ou amoureuse comme elle l'est aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Vous ne comprenez pas que la vie ne vaut pas d'être vécue sans le dernier Samsung Galaxy, je sais pas quoi. Que leur vie est complètement détruite. Paul Tripp, dans « Créer pour s'émerveiller », dit « Le grand combat des parents ne se joue pas sur le terrain du comportement, mais sur celui de l'émerveillement. La question est de savoir par qui ou par quoi nos enfants sont émerveillés. Aussi longtemps qu'ils seront émerveillés par eux-mêmes, ils se rebelleront contre notre autorité, ils choisiront leur propre voie et ils tourneront le dos au Dieu qui les a pourtant créés et qui les fait vivre. On devrait chercher à ce que nos enfants soient émerveillés par Dieu. C'est ce qui va faire courber leurs genoux et leur cœur devant Dieu. Vous devez instruire à vos enfants à vivre pour Dieu, qu'ils prennent plaisir à le connaître, à le servir. Le péché, c'est manquer la gloire de Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu, dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 10, 31. Il n'y a pas de raison plus élevée de vivre que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, pas pour votre propre gloire de parents, mais pour celle de Dieu. Expliquez à vos enfants que c'est ce que vous cherchez à leur transmettre. Que ce soit à l'école, avec leurs amis, sur le terrain de foot ou de rugby, dans les relations avec le sexe opposé, avec les autorités, avec les plus fragiles, dans la gestion de leur temps ou de leur argent, qu'ils vivent pour la gloire de Dieu. Corrigez. corriger quand ils ne vivent pas pour la gloire de Dieu. Et donc, reconnaissez, lorsque vous aussi, vous avez manqué le but. Deuxième raison pour laquelle on devrait corriger nos enfants, c'est pour le bien de l'enfant lui-même. Nous corrigeons nos enfants pour leur bien. L'enfant doit apprendre à se soumettre à l'autorité. L'autorité des parents d'abord, mais ensuite les professeurs, ensuite un patron, ensuite la loi et les représentants de la loi. Et puis pour enfin pouvoir se soumettre à Dieu, l'autorité suprême. Remarquez que lorsque l'enfant ne se soumet pas à ses parents, il aura aussi souvent du mal avec ses professeurs. Il sera peut-être exclu du système scolaire. S'il n'apprend pas à se soumettre aux lois, il risque de connaître la prison. S'il n'est incapable de se soumettre à un patron, il risque de ne pas trouver de boulot ou de le perdre sans cesse. Et s'il ne se soumet pas à Dieu, il connaîtra un châtiment éternel. C'est pour leur bien. C'est pour le bien des enfants que l'on cherche à les corriger. En enseignant à vos enfants à se soumettre à l'autorité, vous les préservez de nombreuses souffrances. Nous poursuivons la transformation du caractère de nos enfants à l'image de Jésus-Christ et non pas leur performance. Jésus-Christ s'est soumis au Père. Lui, le juste, s'est soumis au Père. De sorte qu'ils peuvent comprendre d'être soumis aux autorités auxquelles ils ont affaire sans que ça soit une offense pour eux. Et puis enfin, nous corrigeons nos enfants pour notre propre repos et notre joie. Proverbe 29, 17 dit « Corrige ton fils ». Et il te laissera en repos, il fera tes délices. Ce n'est pas vraiment le but, mais c'est un fruit que vous allez recueillir. De grâce, ne comptez pas jusqu'à trois pour qu'ils obéissent. Ça va vous faire répéter. Très, très souvent, les choses. Imaginez que vous ayez 8 enfants. Le nombre, vous passeriez votre vie à répéter les ordres à tout bout de champ. Les parents sont parfois à bout nerveusement parce que chaque commandement génère un bras de fer de plusieurs heures avec leurs enfants. De même, ne promettez pas des sanctions sans les donner. C'est votre autorité qui est en jeu. Et du coup, réfléchissez aux sanctions. Des fois, ça, vous n'êtes pas crédible. Tu ne regarderas plus jamais la télévision. Bon. C'est sûr que non. Vous êtes en vacances, votre enfant n'a pas eu la glace, vous êtes passé devant un glacier et vous lui dites, alors là c'est le pire, on n'ira plus jamais en vacances. Alors maintenant toute la famille est punie. Mais ça n'a pas de sens, vous perdez votre crédibilité. Non, pour connaître le repos, connaître la joie, corriger les bonnes choses, corriger leur cœur, émerveillez-les de Dieu, de sa gloire, et cherchez leur bien. Dernièrement, corrigez de la bonne manière. Là encore, les mauvaises manières de corriger sont nombreuses. La violence, taper, gifler, lier, secouer, battre, fouetter ou enfermer. En discutant un petit peu avec quelques-uns, j'ai vu que certains ont souffert de ce genre de choses. Rien de tel pour détruire une jeune vie. Parce que la correction, elle doit être empreinte d'amour. Et s'il n'y a pas ça, on ne corrige pas, on corrige mal, on blesse, on maltraite. J'en profite pour dire que toute violence n'est jamais justifiable dans un foyer. Auprès de son épouse, de son époux, de ses enfants, pas de violence. Mais il y a des manières plus subtiles également, mauvaises. Par exemple, la manipulation. Mais tu sais, ta sœur l'a bien fait, elle. Ah oui, d'accord. Ou la peur. Tu la vois, celle-là. Tu vas t'en prendre une. Ou la corruption. Si t'es gentil, je te donnerai des bonbons. Ou le chantage affectif. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ou l'inconstance. Bon, ok pour cette fois. Vous voyez, c'est mal, mais aujourd'hui, c'est bien. Une grande partie de notre discipline parentale devrait être positive. Nous devrions apporter des conseils, des encouragements à nos enfants, quand ils font bien. Ne négligez vraiment pas cet aspect positif de l'éducation. Parce que c'est... La correction, c'est pas juste reprendre et s'énerver. Non, la correction, c'est aussi encourager les bonnes choses. Stimuler les bonnes choses. Dites souvent oui. Et gardez vos noms pour les occasions importantes. Aussi, la correction d'un enfant ou d'un ado ou d'un adulte ne se fait évidemment pas de la même manière. Hein, il y a des méthodes qui marchent pas, hein, selon les âges. Enseignez par contre que le péché a des conséquences qui sont douloureuses et de plus en plus graves. Alors maintenant, comment, de quelle manière je me lance, hein? Peut-être d'abord une expression de désapprobation. Un discours approprié, sévère. Je me souviens que parfois un regard sévère suffisait à corriger une de mes filles. Ça n'a pas marché pour toutes. ni pour les gars, non, du tout. En montrant peut-être clairement en quoi Dieu n'est pas glorifié. Combien ça peut lui être dommageable et combien ça vous attriste. Néanmoins, ça ne marche pas pour tous les âges. Hein, tout petit, il faut juste qu'ils obéissent parce que papa ou maman l'a dit. Il faut parfois joindre le geste à la parole avec calme, comme l'enseigne la Bible. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Certains utilisent la mise à l'écart, au coin, dans ta chambre. J'ai pas souvent utilisé cette méthode, probablement parce que s'il a pas voulu débarrasser la table et que je l'envoie dans sa chambre, ça marche pas bien. Et puis surtout, je crois que c'est plus de mon point de vue, de mon caractère, de ne pas vouloir être séparé de la communion plus longtemps que nécessaire. Mais quelque part, je pense que c'est les parents qui font ça cherchent à enseigner que le péché rompt la communion. Une autre manière, c'est que de laisser l'enfant supporter les conséquences naturelles de ses actes. Ça, c'est difficile pour les parents. Si à chaque fois qu'il désobéit, vous passez derrière pour réparer, pour racheter, pour dépanner, votre enfant n'apprend jamais à assumer ses mauvais choix. Donc parfois, laissez-lui supporter les conséquences. Parfois aussi, peut-être la suppression de certains privilèges. Les privilèges devraient aller de pair avec les responsabilités. Si votre enfant se montre irresponsable, retirez-lui aussi ses privilèges. Mais voilà, donc quelques manières, mais toujours, toujours avec amour. Et ça, c'est un défi. Ça signifie qu'on n'arrive pas à corriger correctement nos enfants sans le secours de Dieu, parce que au moment où on veut corriger, c'est pas l'amour qui déborde de nos cœurs, généralement. Et donc, on a besoin de crier peut-être à Dieu avant de crier sur notre enfant, ou pour ne pas crier sur notre enfant, mais le corriger. Toujours avec amour. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Dieu n'utilise jamais la violence. C'est toujours avec amour qu'il nous corrige. La correction, c'est une preuve d'amour. On l'a lu en Hébreux 12. C'est parce que on t'aime. C'est parce que on cherche ton bien, on poursuit ton bien. Corrigez et puis ne revenez plus jamais sur la faute. Je répète ça. Je sais que vous avez bien compris, mais corrigez et ne revenez plus jamais sur la faute. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que vous allez leur faire payer leur faute, sinon, après la correction. Vous allez utiliser ça comme un chantage affectif. Vous allez les presser d'essayer de vous plaire, de gagner votre amour. Ça, c'est l'anti-évangile. Vous pouvez pas les éloigner plus facilement, plus durablement du Seigneur qu'en agissant comme ça. Oubliez la faute comme Christ a oublié votre faute. Faites-vous violence pour cela. Ils ne doivent pas mériter votre amour. Vous n'avez jamais cessé de les aimer. Et ne gardez jamais rancune. Jésus ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables, mais pour nous rendre aimables. Jésus nous a aimés en livrant sa vie en sacrifice pour nous rendre aimables, pour que nos cœurs soient changés par la puissance de cet amour. On a besoin de Dieu pour changer un cœur. Enseignez-leur la croix. Enseignez-leur la croix. Priez pour eux et priez avec eux pour que Dieu les transforme. Et puis, vous allez les enseigner, vous allez les corriger par votre propre exemple. Si vous leur enseignez à demander pardon et qu'ils ne vous ont jamais vu ni entendu demander pardon, il y a comme un défaut. Si vous leur dites qu'ils ont besoin de Christ pour changer et qu'ils ne vous entendent jamais demander dans vos prières le secours de Christ pour votre propre changement, il y a comme un défaut. Vous devez leur montrer à quoi correspond ce que vous leur enseignez, de sorte qu'ils puissent l'imiter. Donnez-leur l'image, pas juste le son. L'image, pour qu'ils comprennent. Je termine avec la grâce de Dieu. La chose que je voudrais pas faire, c'est vous avoir écrasé par le fardeau de la paternité. Je suis très conscient de ne pas avoir corrigé mes enfants de la manière dont je l'enseigne aujourd'hui. J'aurais aimé savoir tout ce que je sais aujourd'hui. Et avoir tout le recul de l'expérience pour corriger nos enfants d'une meilleure manière, visant leur cœur plus que leur comportement, corrigeant ou les corrigeant pour la gloire de Dieu et non pour sauver mon identité ou par désir de tranquillité. Mais vous savez quoi ? Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Il ne nous a pas donné selon nos mérites, mais il nous a donné selon sa grâce. Dieu nous accepte grâce à ce que Jésus-Christ a accompli, et non pas à cause de ce que nous avons fait. Peut-être est-ce le mode de correction le plus important à leur enseigner. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui nous corrige le plus profondément et le plus durablement. Paul dit en Tite 2, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. La grâce de Dieu, l'œuvre de la croix, transforme nos cœurs en profondeur, nous change, nous corrige. Elle le fait en profondeur parce qu'elle change notre cœur. Et elle le fait durablement, pour toujours. Que Dieu nous aide à vivre ça dans nos foyers, dans nos différents foyers. Prions Dieu, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander encore ton secours. Tu connais nos défaillances. Tu connais nos propres fautes en tant que parents. Tu connais les mauvaises raisons pour lesquelles on a corrigé nos enfants. Tu connais peut-être aussi les mauvaises manières que l'on a employées. Tu connais surtout que on vise bien souvent prioritairement le comportement plutôt que le cœur. Seigneur, sans toi, on n'est pas capable de faire ces choses. Sans toi et sans la grâce que tu as manifestée à la croix pour nous, on n'est pas capable d'instruire nos enfants. Viens-nous en aide. Viens-nous en aide dans la mise en œuvre, Seigneur, de la correction dans nos familles. Permets-nous de corriger nos propres cœurs d'abord par l'œuvre de la croix afin de pouvoir les instruire, les enseigner d'une manière qui t'honore, qui glorifie ton nom, qui procure leur propre joie, leur propre bonheur, non seulement ici-bas, mais surtout éternellement. Et puis, Seigneur, nous te prions pour que notre Église puisse, en Église, porter les fardeaux les uns des autres, que l'on puisse prier les uns pour les autres dans cette tâche si ardue d'être des parents qui corrigeons nos enfants avec sagesse, avec amour. Par Jésus-Christ, nous te prions. Amen.